Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 26 août. La flamme paralympique passe à Lyon ce soir, place Bellecour, et en presqu'île, la place Bellecour qui se met aux couleurs des Jeux paralympiques pendant 3 jours. Laurent Wauquiez a annoncé sa démission de la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On devrait connaître son successeur le 5 septembre. La variole du singe, le gouvernement a annoncé l'ouverture de sites de vaccination en France contre le Mpox, dont 4 pour le département du Rhône. Les travaux de construction de la ligne de l'Est lyonnais débutent cette semaine. 80 tandems, soit 160 coureurs, se sont élancés de Lyon vendredi pour le défi tandem Lyon to Paris à l'occasion des Jeux Paralympiques. Le tandem club rhodanien organise cette course 630 km en 5 jours pour célébrer l'esprit sportif, l'engagement et l'inclusion. Un coureur déficient visuel et un guide voyant constituent chaque équipage. Pour en parler, nous irons à la rencontre de Thierry Bell, l'un des participants non-voyants. Et puis premier match à domicile pour l'Olympique lyonnais. Et une défaite face à l'AS Monaco 2-0.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lyon s'apprête à vivre un moment historique ce soir en accueillant la flamme paralympique. Lyon devient la plus grande ville-étape de cette torche emblématique. Le passage tant attendu de la flamme est prévu entre 17h30 et 19h. Le public pourra suivre le trajet de la torche entre la place Bellecour et la place des Terreaux avant l'allumage du chaudron olympique à 19h. Deux figures emblématiques de Lyon porteront la flamme. Inès Damani, vice-présidente et coach du club de football féminin Lyon-Duchère, et Michel Sorine, organisateur d'événements sportifs comme la Saint-Élion. D'autres porteurs prendront le relais tout au long du parcours, dont Sophie Éclairci qui témoignait sur notre antenne la semaine dernière. La place Bellecour accueille un véritable village paralympique animé pendant 3 jours avec un mini-festival pour faire vivre l'esprit des Jeux. Un terrain synthétique, une piste d'athlétisme, un terrain de basket, et des espaces de sport freestyle et de découverte. Au programme football, rugby, tennis de table, badminton, escrime, sprint, BMX, basket à 3. Les visiteurs pourront s'essayer aux diverses épreuves officielles des disciplines olympiques et paralympiques. L'événement propose également plusieurs espaces ludiques dédiés à la détente. Des jeux en bois et des coloriages sont notamment prévus pour les enfants. Le village sera ouvert de 12h à 20h aujourd'hui et demain, puis de 10h à 20h mercredi. 5000 personnes pourront être accueillies simultanément.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le député de Haute-Loire, Laurent Wauquiez, a annoncé sa démission de la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats. Sa démission entraîne de facto celle de tout son exécutif. Wauquiez pourra rester conseiller régional, mais ne pourra plus avoir de fonction exécutive. Une assemblée plénière est convoquée le 5 septembre. Les conseillers régionaux éliront le ou la nouvelle présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la foulée, vice-président et conseillers spéciaux seront désignés. En attendant, la première vice-présidente Stéphanie Pernaud traite les affaires courantes. Stéphanie Pernaud, mais aussi le maire de Valence, Nicolas D'Aragon, le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, et l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, figurent parmi les pressentis pour prendre la succession de Laurent Wauquiez. La variole du singe, le gouvernement a annoncé l'ouverture de 232 sites de vaccination en France contre le Mpox, dont 4 pour le Rhône. Ils sont situés au sein des deux Cégides, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, des hospices civils de Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse donc, et à l'hôpital Édouard Herriot. Les deux autres au centre de santé et de sexualité Le Griffon, 23 rue des Capucins dans le premier, et au Cégide de l'hôpital de Villefranche. Le virus Mpox peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'un malade, ainsi que par les gouttelettes, salive, éternuements, postillons, et par contact indirect avec l'environnement du malade, literie, vêtements, vaisselle, linge de bain. La maladie dure généralement de 2 à 3 semaines. Depuis début 2024, 28 cas ont été recensés dans le Rhône. Les travaux de construction de la ligne de l'Est lyonnais débutent cette semaine. La future ligne de l'Est lyonnais, l'Aile, est un bus à haut niveau de service qui, en 2026, permettra de relier les 7 chemins à la Part-Dieu en 26 minutes. Des réductions de voiries font leur apparition dès cette semaine. Sur le rond-point des 7 chemins, sur la route de Lyon, des travaux en lien avec la création de la ligne de l'Est lyonnais devraient aussi commencer à Chassieux, notamment la réalisation de couloirs de bus et de pistes cyclables entre le rond-point des 7 chemins et le boulevard des Droits de l'Homme.
Lyon demain ? Écoutez ma différence.
160 coureurs sont partis vendredi de Lyon du Vélodrome du Parc en tandem direction Paris pour le défi tandem Lyon to Paris au cœur du peloton, un Lyonnais. Et ce Lyonnais, c'est Thierry Bell. Bonjour Thierry Bell.
Bonjour.
Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs de Lyon à être parti pour ce défi. Comment se sont passées, dites-nous, les premières étapes?
Il y en a 5 en tout et nous en sommes à la fin de la troisième. Des étapes de plus de 100 km hein, puisque celle-ci vient de faire 148. Ça se passe très bien. Nous sommes évidemment un peloton de 81 équipages. C'est quand même une expérience tout à fait particulière. D'ailleurs, c'est un rassemblement qui, à ma connaissance, ne s'est jamais fait en pareil nombre que de faire rouler des tandems. Après, les uns et les autres, notamment les pilotes, qui sont évidemment, eux, valides et qui font équipe avec une personne déficiente visuelle. Pour eux, c'est une expérience assez particulière que de rouler en peloton avec des tandems. Pour certains, c'était une première. C'est une expérience, pour l'instant, assez unique.
Et oui, parce que cette épreuve arrive mercredi à Paris, enfin, même mardi, je crois, pour votre défi. Jour oui. De l'ouverture des Jeux Paralympiques Paris 2024. Et oui, parce que ce qu'on n'avait pas précisé au départ, effectivement, dans cette interview, c'est que le peloton est constitué de tandems handisport. En quoi ça consiste également, le tandem handisport?
À Lyon, nous avons, par exemple, une association membre de la Fédération Française d'Handisport, qui est le Tandem Club Rodanien, composé de un peu plus de 50 personnes, enfin même équipage. Nous avons organisé cette manifestation, comme vous l'avez dit, en vue de l'ouverture des Jeux Paralympiques, et c'est patronné, ou parrainé plutôt, par Alexandre Liovera, qui lui-même est aveugle, médaillé d'or et de bronze aux Jeux de Tokyo, et qui nous a donc donné l'idée, à l'occasion des Jeux de Paris, d'organiser une manifestation qui a pour objet notamment de faire de la sensibilisation, de montrer combien il était intéressant de faire œuvrer voyants, enfin personnes valides et personnes handicapées, pour un même but, et dans un esprit d'entraide, de solidarité et d'inclusion. Et ça, c'est d'autant plus important que, œuvrant pour ma part au sein d'un conseil d'administration d'un EHPAD, qui gère un EHPAD, j'ai pu constater à bien des reprises que le manque de pratiques sportives chez les personnes aveugles est très fréquent, du fait de la dépendance que ces personnes ont dans la pratique du sport, puisque pratiquer du sport comme courir ou autre activité demande bien souvent l'aide par une personne voyante. Donc ça fait que bien des personnes non-voyantes ne pratiquent guère de sport, et on sait combien la pratique sportive est importante dans la forme, dans la conservation physique de toutes les aptitudes physiques et même mentales chez la personne, d'autant plus quand elle est vieillissante.
Oui, parce que l'objectif hein, de ce challenge, entre guillemets, c'est justement de défendre un petit peu l'inclusion, de faire en sorte que notre société soit un peu plus inclusive vis-à-vis des malvoyants et des non-voyants.
Voilà, c'est de changer le regard, si je puis dire, de la société, essayer de faire toucher du doigt l'importance que revêt cette inclusion et de faire participer ces personnes en situation de handicap. Là, en l'occurrence, visuel, mais c'est vrai pour n'importe quel autre handicap. Les faire inclure dans les activités, dans la vie, tout simplement, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles. D'améliorer les interactions sociales, donc le regard que portent les personnes valides, de tout un chacun, sur ces personnes porteuses d'une différence.
Parce que les barrières ne sont pas seulement techniques.
Hein. Elles ne sont pas seulement techniques, et peut-être même principalement, elles sont d'ordre du regard de qu'on porte sur l'autre, sur les préjugés qu'on a, sur la difficulté qu'on a aussi à aborder une personne qui a une différence ou un handicap. C'est pour ça qu'il est très important de faire ce type d'action, de sensibilisation, et je dirais même dès le plus jeune âge. D'où l'effort qui est fait en France depuis maintenant une petite vingtaine d'années en faveur de l'inclusion scolaire, par exemple, mais aussi professionnelle.
On a l'impression que le vélo, c'est quelque chose qui est absolument impossible pour une personne qui est non-voyante. Et pourtant, effectivement, quand on pense au tandem, on voit tout de suite que ça peut matcher. Alors, comment ça fonctionne le duo sur le vélo?
D'abord, c'est très enrichissant. Quand j'écoute les pilotes, ils disent que ça leur apporte également. Alors, en fait, c'est une bonne communication qu'il faut avoir entre le pilote et le stalker, on appelle ça la personne qui est à l'arrière du tandem. Le pilote donne des informations au stalker, comme nous allons nous arrêter, on pose le pied gauche ou le pied droit, etc. On va démarrer du pied droit, etc. Attention, virage à droite de 90 degrés. Bon, ensuite, il n'y a pas beaucoup d'autres informations directement liées au déplacement du véhicule, enfin du tandem. Par contre, les pilotes sont bien inspirés que quand ils décrivent l'environnement, le paysage, les remarques qu'ils peuvent faire sur ce qu'ils voient, etc., ça ne fait qu'enrichir notre perception, l'une autre, parce que moi-même je suis non-voyant, de ce qui nous entoure.
Et puis peut-être vous également qui êtes non-voyant, vous pouvez peut-être aussi apporter quelque chose au pilote, parce qu'on sait que vous avez une sensibilité un peu particulière sur l'ouïe, également sur l'odorat par exemple.
Effectivement, on est très réactif quand on ne voit pas, aux odeurs, à ce qu'on entend, à interroger l'autre sur... quelle réalité se trouve derrière tel son, telle odeur, etc. Et puis, c'est aussi un enrichissement, ça c'est au dire des pilotes, sur leur façon, leur découverte de la personne handicapée, et puis des interactions entre personnes valides et personnes handicapées, ou même entre elles, parce que on est là un groupe avec un esprit sportif mais aussi festif où il y a de nombreux échanges et beaucoup de questions nous sont posées sur comment on vit, sur qu'est-ce qu'on pratique comme activité, comme sport, comme profession, etc. Et ça permet de faire découvrir aux personnes valides les possibles en concernant les personnes, en l'occurrence, déficientes visuelles.
Outre le tandem club rodanien là, dont on nous parlait, il y a d'autres clubs sportifs comme ça qui associent non-voyants et personnes valides ?
Alors, sur Lyon, il y a effectivement les sections handisport qui font toujours appel. Alors, d'ailleurs, c'est une chose à dire et qui est très importante, c'est que de toute façon, la pratique du sport organisé pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes requiert l'intervention, l'aide de personnes voyantes, volontaires, connaissant ou pas, enfin connaissant de préférence le sport en l'occurrence. Mais ce qui est très important, c'est effectivement que sans ces personnes voyantes volontaires, il est très difficile d'organiser une activité sportive. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Lyon ? Il y a, par exemple, une activité de tir à l'arc. Après, concernant d'autres handicaps, là, je le connais moins, mais handisport est très développé en Rhône-Alpes. Sinon, en dehors de cela, il y a également d'autres pratiques qui requièrent moins directement l'intervention de personnes voyantes, comme le judo, par exemple, où une personne non-voyante est capable d'une pratique même d'un très bon niveau.
Votre arrivée à Paris, vous la voyez comment en milieu de semaine ?
On va passer par Paris, en principe. Hein. Je dis en principe parce qu'il y a quand même, je dirais, il faut l'assentiment définitif des services de sécurité en lien avec les Jeux paralympiques, mais c'est en bonne voie. Et en réalité, la caravane, entre guillemets, va terminer son itinéraire à Couvray, le village natal de Louis Braille, inventeur de l'écriture pour aveugles, portant ce nom-là, son nom.
Tout un symbole.
C'est tout un symbole, exactement. C'est très important pour nous. Il y a un musée dans la maison natale de Louis Braille, fort intéressant, qui apporte lui aussi beaucoup d'informations sur comment vivaient les aveugles au XIXe siècle et au-delà.
Merci Thierry Bell, en tout cas, de nous avoir fait part de cette information et de nous avoir développé votre quotidien à travers ce défi tandem. On dit comment, Lyon to Paris ?
Oui, c'est ça.
Eh ben voilà.
Oui, parce qu'il a une vocation internationale à l'occasion des Jeux Paralympiques.
On avait bien compris. Merci beaucoup Thierry.
Merci.
L'Olympique Lyonnais n'a pas vraiment existé pour la deuxième journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont été battus pour leur première à Décines par l'AS Monaco 2-0. Les Lyonnais ont été dominés tout au long de la rencontre avec un seul tir cadré. Après une séance lors du stage de Divonne-les-Bains début août, l'Olympique Lyonnais va ouvrir un deuxième entraînement au public ce lundi à partir de 16h30 au Training Center à Décines. L'Olympique Lyonnais recevra Strasbourg vendredi à 20h45 au Groupama Stadium pour la troisième journée du championnat. Et puis un mot de rugby, le Loup a remporté 33-21. Son premier match de préparation, c'était face à Vannes à Bourgoin. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la deuxième édition de la semaine.